Monsieur Delon.
Delon par Delon.
C'est un accident, ce que je suis. Et puis d'un seul coup, on vous met une étiquette et vous êtes Delon.
C'est mon idole.
Et par Laurent Delmas.
Qu'est-ce que vous vouliez dire sur Alain Delon ?
Il est fascinant et formidable. On ne peut pas inventer ce qu'il fait. On l'a dedans et on le sort ou on ne le sort pas.
Je suis un acteur qui essaie de transposer, de ramener les personnages à mon moi personnel.
César a tout réussi, tout conquis. Je t'inquiète pas.
Bonjour mon oncle.
Tancred.
Un samouraï. Elle ne doit rien à personne. Ni à Roku, ni à ses frères.
Nadia ! Nadia, arrête-toi !
Non, police-moi !
Ni au clan des Siciliens.
D'accord. Mais je vous préviens que moi, on me vire pas d'une affaire.
As-tu entendu parler de la tulipe noire ?
La tulipe noire ?
Ah, c'est moi.
Non.
Eh oui.
Allô, Robert Klein ?
Allô, qui est à l'appareil ?
Robert Klein.
Molto bravo. Arrivati là, ti do un bacio.
J'étais, entre guillemets, une vedette italienne avant d'être une vedette française.
Vous parlez. Vous ne pensez qu'à vous.
Il restera quoi dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans de Monsieur X ou de Madame Y dans l'histoire du cinéma français ou mondain ? Rien. Moi, je resterai.
Avez-moi.
Et avez Laurent Delmas.
Épisode 9. Le soleil noir.
Stop.
Pour ce dernier épisode de notre série consacrée à Alain Delon, on se lance dans le difficile exercice de la synthèse appliquée à un personnage complexe, paradoxal, ambigu, mais définitivement fascinant. Le regard de Delon sur Delon et celui de nos 9 grands témoins, plus quelques autres, nous y aideront. À moins qu'ils ne brouillent un peu plus les pistes, mais c'est un risque à prendre. L'acteur appartient désormais à la légende du cinéma français, européen et mondial. Le samouraï, Rocco, le professeur, Robert Klein et quelques autres font partie du paysage. Mais qui se cache véritablement derrière ces rôles ? C'est à cette question et à d'autres encore que nous tenterons de répondre pour regarder en face Alain Delon, ce soleil noir. Et d'abord en l'écoutant lui, qui, au micro de France Inter, en 1979, délaisse cette troisième personne du singulier, derrière laquelle il aimait se cacher, et parle de lui à la première personne, pour dire sa vérité.
Je suis un grand caractériel. Je suis un scorpion, je suis un passionné, je suis un caractériel. Alors, j'ai aussi un sale caractère, vous voyez, ça fait beaucoup de choses. Alors, si vous appelez ça dictatorial, moi je veux bien, disons que j'ai un caractère qui suit certaines fluctuations et qui est très variable et qui est très changeant. Alors, c'est vrai, je suis dur avec les gens qui m'entourent, je suis dur avec les gens qui travaillent avec moi, souvent, mais aussi, j'ai le pouvoir de dire que je suis très dur avec moi-même. Ça n'est pas une excuse, si vous voulez, ça ne m'excuse pas d'être dur avec les autres, mais déjà, c'est quelque chose qui atténue. C'est-à-dire que j'ai envie en général que tout le monde marche à mon heure, que tout le monde marche à mon rythme, mais dans le sens de travail, dans le sens de résultat et dans le sens de perfectionniste. C'est dans ce sens-là qu'il faut l'entendre. C'est pas du tout dans le sens, comme le disent les imbéciles en général, de caprice ou de se faire plaisir. Non, je ne me fais pas plaisir, je travaille, j'aime mon travail, j'essaie de le faire au mieux, et alors à ce moment-là, je suis assez intransigeant, c'est vrai.
On trouve des échos de la personnalité profonde de Delon dans les rôles qu'il incarne. Difficile ainsi de ne pas voir Delon derrière le vibrionnant collectionneur Pierre Niox dans le film d'Edouard Molinaro, L'homme pressé, d'après le roman de Paul Morand. C'est même sa compagne dans la vie, Mireille Darc, qui lui donne ici la réplique. On écoute un extrait de la signifiante bande-annonce.
Vous n'êtes plus cardiaque ?
Plus le temps.
Il y a un autre vol à 17h20, c'est pas la peine.
Et j'aurai celui-là, il ne part que dans 5 minutes.
Tu vas gagner quelques secondes, qu'est-ce que tu vas en faire ?
Des minutes. C'est comme ça, qu'est-ce que tu veux ? Une occasion se présente, un objet, un tableau, je peux pas résister. L'argent, les objets, je m'en fous. C'est le jeu qui m'a fait. Non, moi, ce qui me fascine, c'est quand j'achète. L'instant où j'ai acheté.
Et il y a cette pièce d'une qualité, permettez-moi de vous le dire, infiniment plus belle que celles qui sont exposées ici.
Oui. Et éventuellement, ce serait à vendre.
Je pensais que ça n'existait que dans les romans de Balzac, des gens de votre espèce.
Ça fait plus de 20 ans que...
Combien ?
Mais tu sais très bien ce que ça vaut.
Bouge. La vie, c'est mouvement.
Restons simples, mademoiselle.
Edwige.
Je n'appelle que les putes par leur prénom.
J'ai bien l'honneur, madame de Bois-Rosé, de vous demander la main de votre fille.
La mort? Je m'en fous de la mort, je l'emmerde. Il sera bien temps de s'occuper d'elle quand elle sera là.
Alors la cloison, là, vous me la faites tomber. Je veux un accès direct sur la cuisine et l'espace petit déjeuner.
C'est pourquoi?
Je te demandais l'impossible.
Et maintenant, c'est Pierre Niox qui va la voir. Vous m'entendez tous les deux? C'est Pierre Niox qui va la voir. 20 ans que je l'attends.
Je l'aimais bien parce que c'est un homme qui bouge. C'est aussi pour ça que je vais le perdre.
Un enfant est médicalement achevé à 7 mois.
Le reste du temps, il traîne. Il pourrait être là dans 3 mois. Je le verrai, je l'aurai, tu comprends? Je l'aurai.
Je vais être jugé! Je le juge!
10 ans plus tard, en 1988, face à Jacques Chancel, dans Radioscopie sur France Inter, Delon persiste et signe. On croirait décidément entendre Pierre Niox.
Boulimique sûrement, gourmand oui, mais gourmand et boulimique de qualité, gourmand de choses essentielles, gourmand de la beauté, parce que je suis un esthète, parce que j'aime les belles choses, parce que j'aime les beaux objets, parce que j'aime les belles gens, parce que j'aime les belles actions, parce que j'aime tout ce qui est beau, sous toutes ses formes, et que j'ai toujours cultivé d'une façon ou une autre la beauté. Voilà. Alors bon, c'est vrai que j'ai eu une vie assez, disons entre guillemets bien sûr, exceptionnelle, dans le sens de l'exception, dans le sens de l'ordre du commun. C'est vrai que, bon, on pourrait dire, parti de rien, vous êtes arrivé du moins à quelque chose, mais j'en suis très heureux, mais je crois que toute ma vie, j'ai été poussé par un besoin d'action, par un besoin d'assumer des passions, quelles qu'elles soient, par un besoin de vie. Simplement parce que la chose dont je suis la seule chose dont je sois sûr, c'est l'inéluctable, c'est donc de mourir, parce qu'on est sûr que d'une chose c'est de la mort, ça c'est un fait, et que dès l'instant où j'ai compris ça, ben j'ai décidé de vivre et de vivre au maximum de mes possibilités, de mes moyens, de ma santé, de mes envies, de mes désirs, de mes passions,
et sans crainte de mourir, c'est-à-dire jouer le jeu de la vie dans sa totalité,
sans crainte de mourir,
ne pas s'économiser.
Ah ben absolument pas. Je crois pas qu'on puisse s'économiser, parce que sinon on le regrette un jour. Moi j'ai déclaré il y a quelque temps, mon rêve c'est d'être insomniaque, parce que je ne supporte pas de passer un tiers de ma vie dans un lit, même bien accompagné. Et voilà.
Donc, l'action d'abord.
Pas l'action. La vie, ma vie, mon choix de vie qui correspond à ma nature, qui correspond à mon tempérament, ça n'est pas un besoin d'action, c'est ma forme de vie, c'est tout. Il y a des gens qui aiment glander, bon moi j'aime pas, il y a des gens qui aiment les vacances, moi je n'aime pas, il y a des gens qui aiment travailler, d'autres pas, moi je ne discute pas, je ne juge pas les autres, ça n'est pas ni un besoin d'action, ni un besoin de ceci, ni un besoin de cela, c'est simplement ma façon à moi d'être et ma façon de vivre, que je ne demande pas d'accepter, d'aimer, de partager, mais que je suis comme je suis. Je veux dire, ça plaît tant mieux, ça plaît pas, tant pis.
Mais dans le film de Molinaro, Pierre Niox meurt foudroyé par une crise cardiaque alors qu'il mène sa vie tambour battant.
Pierre.
Pulsion de vie ou pulsion de mort? À notre micro, l'écrivain Olivier Mongin, auteur d'un passionnant ouvrage intitulé « Visage de la France, les acteurs, images de la nation », n'hésite pas à reprendre l'image paradoxale d'un soleil noir.
Il y a une pulsion de mort chez Delon qui est très très forte, que vous voyez pas chez Belmondo,
non.
Qu'on voyait dans le Gabin, bien sûr, de cinéma, mais on revient un peu aux thématiques du cinéma d'avant-guerre, du vivier, ouais. On le sait tous, le cinéma d'avant-guerre, il est noir, il est triste, Gabin joue que des rôles de perdants, quelque part, c'est des solitaires.
Ouais.
Mais Delon, il a gardé cette noirceur de l'avant-guerre, et c'est là où c'est très intéressant, parce que après-guerre, ce beau mec sorti de Plein Soleil et de Visconti, c'est quelqu'un qui n'en finit pas de nous montrer la vulnérabilité. Et c'est ça que je trouve assez impressionnant. Et je pense qu'il est devenu une star pour ça. C'est pas quelqu'un qui est assuré. comme un acteur classique, si grand soit-il. On retrouve là les grands acteurs américains, quelque part. Hein. Mais Delon a cette capacité, alors qu'il est une icône ensoleillée, a priori, c'est le côté plein soleil, c'est Tancred, et en fait, c'est quelqu'un qui...
Un soleil noir.
Voilà, vous avez tout à fait raison. Bah, soleil noir, ça renvoie beaucoup de choses qu'on a pu écrire sur Sade et où il n'y a rien de sadique dans ce qu'il fait pas du tout. Non, c'est pour dire le soleil noir, c'est très compliqué.
Oui.
Mais ça hante la question de la Révolution française, faut pas l'oublier.
Oui, c'est
ces
vrai.
Questions-là. Hein. C'est-à-dire que, bah, on est chez Goya aussi.
Ouais.
On va, effectivement, Goya, il peut peindre les grands, mais il les peint en les défigurant. Ouais. Et justement, cette star incroyable, elle est capable de se défigurer, de perdre son identité. Encore faut-il retrouver l'identité. Il retrouvera toujours l'identité de Long jusqu'à la fin de sa vie.
On se souvient alors que Delon déclara un jour que son film préféré au monde, c'était « La chambre verte » de François Truffaut. Le portrait d'un homme, incarné par Truffaut lui-même, qui consacre sa vie au culte des morts. On n'aime pas à la légère ce film incandescent en forme de requiem.
Mes morts possèdent un endroit maintenant qui est irrévocablement à eux. Mais vous voyez, cette ancienne chapelle ne sera pas un lieu de mort, ni un lieu de repos, mais un lieu de vie. Même lorsque nous ne serons là, ni vous ni moi, ces flammes continueront à briller, à respirer, au rythme du cœur humain. Aucune d'elles ne devrait s'éteindre.
Mais tous ces portraits, toutes ces personnes, vous les avez connues ?
Oui, ce sont mes amis disparus. Vous êtes jeune, mais vous verrez qu'à partir d'un certain moment, on en arrive à connaître beaucoup plus de morts que de vivants.
Mais décidément, et à l'exact opposé, Jean-Marc Parisi, écrivain et biographe de Delon, préfère, lui, en revenir à « Quelle joie de vivre », le titre explicite du trop méconnu film de René Clément que Delon tourna en 1960.
Et j'étais un peu là, si vous voulez, du cliché Delon, sombre, du cliché Delon, désespéré, du cliché de Long, tragique, bon, etc. Moi, ce que j'aime, c'est la force et l'énergie de Long. Je suis assez spinoziste en ce sens-là. Et pour moi, la force et l'énergie, c'est la joie. Et quelle qu'ait été, si vous voulez, l'image publique de Long, je pense que la joie, elle était là. Elle était inexprimable, d'une certaine façon, mais elle était là. Jamais Delon, d'une certaine façon, on a forcé Delon à faire du cinéma. Jamais. C'est-à-dire que même il est même très très intéressant pour ça, c'est que quand il a fait des affaires, quand il a gagné de l'argent autrement, c'était tout simplement pour ne pas dépendre du cinéma. Pour ça que le mot de liberté est très important. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc à chaque fois qu'il a fait quelque chose, c'était pour son plaisir. Alors même si on le regarde comme ça, je tenais à terminer sur cette notion de joie parce que pour moi d'une certaine façon, la force, l'énergie, c'est la joie. J'ai pas dit la violence, hein. J'ai dit la force et l'énergie. C'est-à-dire j'ai dit la pulsion de vie. Voilà. Et d'une certaine façon, pour une fois, Delon étant un acteur sans descendance, sans ascendance et sans descendance, je suis un peu désolé, mais en termes de pulsion de vie, j'en vois pas aujourd'hui. Vous voyez, d'aussi fort, voilà.
Oh, regardez-le.
Dans ce dernier épisode de notre série consacrée à Delon, on tente de cerner les multiples facettes d'un acteur hors norme et dont l'image va jusqu'à se confondre avec celle de la France. C'est ce que nous raconte le philosophe Paul Audy à partir de sa propre expérience.
J'en ai parlé pour deux raisons. J'en ai parlé dans un essai autobiographique où j'ai raconté mon enfance au Liban et mon arrivée en France à l'âge de 11 ans. Et j'ai voulu marquer le fait que Alain Delon, ainsi que Catherine Deneuve, d'ailleurs, dans Peau d'âne, avaient joué un rôle décisif dans ma manière de me représenter la France. Et donc, pour moi, Alain Delon, lorsque j'étais très jeune, incarnait une certaine francité. Et cette francité, j'avais besoin de la retrouver, ou de la trouver, lorsque j'arriverai en France, puisqu'il était en quelque sorte programmé dans mon destin de devenir très jeune en France, de devenir français et de vivre dans ce pays. Donc, oui, c'est le visage de la francité qui m'a marqué. Je n'avais pas trop l'idée de ce qu'était la France, mais justement, lorsque j'ai vu Alain Delon, je me suis dit « c'est ça la France ». Et donc, je me trompe peut-être, mais je ne crois pas tellement, justement. Parce que la France est incroyablement duplice. C'est une face qui se tourne vers nous, mais qui cache énormément de choses. Enfin, tout se joue sur un double registre. Un registre idéal, évidemment, celui de la France éternelle qui se présente sous les meilleurs auspices comme celle qui porte en elle les valeurs d'universalité. Et puis, il y a la France qui, elle, est incroyablement particulariste et qui n'est pas aussi accueillante et aussi hospitalière qu'elle le dit. Donc, il y a les deux. Si vous voulez, et peut-être que cette duplicité, mutatis mutandisme, se retrouve chez lui aussi. Il est les deux, il est un être incroyablement accueillant dans la manière dont il invite le spectateur à s'identifier à ses personnages, mais il est en même temps quelqu'un qui est enfermé dans une solitude absolue. Il ne donne absolument aucun accès à son intimité, et ça, c'est peut-être ce que la France montre d'elle-même aussi.
Mais quelle est donc l'image de Delon au sein même de cette soi-disant grande famille du cinéma français ? Avant d'aborder la question centrale de l'héritage artistique, écoutons Nicolas Parisère, un cinéaste d'aujourd'hui, à qui nous avons demandé s'il aurait aimé diriger Delon.
Autore. Partito. Ciao. Attenzione.
Alors, ça dépend en quelle année je... Enfin, ça dépend de quelle génération j'aurais été et de quelle nationalité j'aurais été. Voilà. Je pense que si j'avais été un cinéaste français de la génération de la Nouvelle Vague, ou un peu post-Nouvelle Vague, je n'aurais pas aimé tourner avec Delon. Si j'avais été italien, j'aurais adoré tourner avec Delon. Et si j'avais eu 10 ans de moins, 10 ans de plus, pardon, oui, peut-être que j'aurais essayé, entre guillemets, de le sauver dans un premier film français fait dans les années 90 ou 2000. Mais je pense que c'était quand même très, 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 très compliqué parce que c'est un artiste. Et donc, et un artiste en plus qui avait une très grande conscience de ce que c'était qu'un film. Et qui devait tester tout le temps les réalisateurs. Donc, je pense que j'aurais pas été, j'aurais été trop ambitieux pour qu'ils me prennent pour un je m'en foutiste. Mais j'aurais pas aimé non plus qu'ils me regardent en disant bon, tu fais des efforts, mais t'arrives pas au niveau de Lozay ou Visconti. Voilà. Donc, ça aurait été compliqué. Mais pour répondre en un mot, oui, évidemment, j'aurais adoré tourner avec Delon. Oui.
Stop!
À ce stade de notre portrait, la question se pose.
Qu'est-ce que vous disiez, Alain, dans cette scène ?
Dans la scène avec Cathy ?
Oui.
Vous voulez que je vous la joue ?
Oui.
D'accord.
Pour la répétition.
Delon serait-il une star sans héritier artistique ? Pour la journaliste et critique de cinéma Muriel Joudet, comme pour l'ensemble de nos interlocuteurs, la réponse ne fait aucun doute.
Il est le cinéma à lui seul, et surtout, il habite la mise en scène. Pour moi, il est un peu comme Deneuve, c'est des gens qui habitent le cinéma. Ça a l'air un peu neuneux quand je dis comme ça, mais la mise en scène vraiment les fait exister. Pour moi, c'est vraiment des créatures dont j'ai du mal à me dire... et c'est pour ça qu'à chaque fois, il y a des récits de gens qui ont croisé Delon dans la rue, c'est qu'on n'arrive pas à croire qu'il puisse exister en dehors des films. Moi, j'ai pu croiser une fois Deneuve au cinéma, et j'y ai pas cru. Enfin, j'ai mis quelques jours à m'en remettre, parce que précisément ces acteurs, c'est pas les stars en général, précisément ces acteurs habitent les films. Et le fait qu'ils puissent, voilà, juste avoir une vie à eux à côté, c'est une idée quasiment insupportable, quoi. il y a peut-être une distinction à faire. Il y a les acteurs qu'on pourrait croiser dans la rue et ceux qu'on ne pourrait jamais croiser dans la rue. Et c'est pour ça que je pense que Delon est très... C'est, autant on peut trouver des héritiers de Belmondo, autant Delon, c'est très compliqué. Il n'en existe qu'un, il s'est auto-généré, il s'est auto-fabriqué, il s'est donné naissance à lui-même. Et derrière, bien qu'il y ait eu des enfants, il n'y a pas d'héritier.
Pas d'héritier artistique pour Delon, d'accord. Mais pourquoi cette gêne palpable à parler de lui au sein du cinéma français actuel? Autant le dire sans détour, pour cette série, des dizaines et des dizaines d'actrices, d'acteurs et de cinéastes ont été contactés. Sans succès. Pour de bonnes et de mauvaises raisons. Parfois pour des raisons idéologiques que la meilleure part de la filmographie de Delon devrait pourtant largement atténuer. Et comment expliquer autrement l'absence de toute prise de parole lors de la cérémonie des Césars en 2025, moins d'un an après la mort de l'acteur, avec pour tout hommage une série d'extraits de ses films. En 2019, le Festival de Cannes, en remettant à Delon une palme d'honneur, n'avait pas ses étranges pudeurs. Et les propos de Thierry Frémaux, le délégué général du festival, sonnaient alors plus que juste.
Alain Delon !
Alain Delon ! Quelqu'un disait, les gens disent que je suis le même dans la vie et dans mes films, et c'est pour ça qu'ils m'aiment. C'était Jean Gabin, votre ami, qui disait ça, et c'est un portrait de vous. La carrière est immense, les personnages sont multiples, les rencontres innombrables. Le succès planétaire de Buenos Aires à Tokyo, de Moscou à New York. Parfois, on ne sait quand même plus où regarder. On ne sait plus qui voir, l'homme dans la vie ou le héros à l'écran, Gabin toujours. Alain Delon, vous apparaissez soudainement comme un homme seul. Et de cette solitude, vous avez la force, mais vous en conservez aussi un fond de tristesse. En plus des traces ineffaçables que vous aurez laissées sur un écran, il y a une vie d'homme, avec ses amours, ses chagrins, ses failles, ses contradictions, ses convictions, dont vous n'avez jamais demandé qu'elles soient partagées, dont vous n'avez jamais exigé qu'elles s'imposent à tous. On sait que l'intolérance est de retour, elle se grime sous le masque d'une nouvelle doxa dont on veut nous faire croire qu'elle nous consolera du risque de déplaire et de celui de se tromper si on pense tous pareil. Eh bien, Alain Delon n'a pas peur de déplaire, il n'a pas peur de se tromper, et il ne pense pas vraiment comme les autres, et il n'a pas peur d'être seul. Il ignore les pensées officielles et les bienséances contemporaines.
De même que dans sa réponse immédiate, Alain Delon, au-delà de l'émotion évidente, ne mâchait pas ses mots.
Il y a longtemps que je n'ai pas autant chéri de ma vie, mais merde. Je vais vous dire pourquoi je suis heureux de cette Palme d'Or. Vous n'êtes pas obligé d'être en accord avec moi, mais c'est surtout parce que je... Il y a une chose au monde dont je suis sûr, et une chose au monde dont je suis fier, vraiment, la seule, c'est de ma carrière. Et cette Palme d'Or, on me l'a offert pour ma carrière et pour rien d'autre. C'est pour ça que je suis heureux et content et satisfait.
Merci. Merci.
Je vais vous demander pardon parce que ce soir, pour moi, plus qu'une fin de carrière, je pense que c'est une fin de vie. Ce soir, c'est un peu un hommage posthume, mais de mon vivant. Vous savez, quand j'ai commencé ce métier, on m'a dit qu'il y a une chose qui est difficile, qui n'est pas difficile, c'est de faire le métier que tu veux faire. Ce qui est très difficile, c'est de durer. Et j'ai duré. J'ai duré 62 ans. Et maintenant, je sais que ce qui est difficile, c'est de partir. Parce que je vais partir. Mais je ne partirai pas sans vous le dire et sans vous remercier. J'ai fait un métier que j'ai choisi, dirigé par les plus grands, les meilleurs. Et paraît-il, je suis une star. Mais si je suis une star, et c'est pour ça que je veux vous remercier, c'est au public que je dois et à personne d'autre. Et je vous dis merci et au revoir.
La veille de cet hommage cannois, l'acteur François Morel, le 17 mai 2019, avait consacré sa chronique matinale sur France Inter à Delon et avec l'impeccable brio qu'on lui connaît.
Bonjour François Morel.
Bonjour.
On dit qu'Alain Delon va recevoir la palme d'honneur du Festival de Cannes. Et sur la croisette, on s'agite, on s'inquiète, on proteste, on a peur. On a raison d'avoir peur. Car ce n'est pas Alain Delon qui va venir, c'est un loup sauvage, indiscipliné, une bête féroce qui va sortir de sa tanière, un animal expressif, agressif, au comportement complexe, aux réactions imprévisibles. Ce n'est pas Alain Delon qui va venir, c'est un chien farouche, insociable, misanthrope, qui depuis longtemps a décidé du coin de campagne où il sera enterré, parmi ses 30 chiens déjà ensevelis, ses 30 derniers amis. On dit qu'Alain Delon va recevoir la palme d'honneur du Festival de Cannes. Et sur la croisette, on discute, on se rappelle, on convoque les souvenirs. Mais ce n'est pas Alain Delon qui va venir. C'est un tout petit enfant qui fait la fierté de ses parents et qu'un jour on met en pension quand l'amour est mort et que les parents ne s'entendent plus. C'est un enfant abandonné. Ce n'est pas Alain Delon qui va venir. C'est un enfant perdu. Un apprenti charcutier qui va passer son CAP. Un engagé volontaire pour qui l'honneur n'est pas une palme, mais le respect de la parole donnée. Mais la fidélité en amitié. Mais la loi du silence. Un petit voyou qui a de mauvaises fréquentations. Un mauvais coucheur, pas sympathique, pas aimable, provocateur. Ce n'est pas Alain Delon qui va venir. C'est un boxeur qui régulièrement dit sa hantise, sa crainte, son angoisse de faire le combat de trop, en venant à la télévision faire la promotion d'un combat de trop. On dit qu'Alain Delon va recevoir la palme d'honneur du Festival de Cannes. Foutaise, mensonge, imposture. C'est un souvenir d'Alain Delon. C'est un fantôme d'Alain Delon qui ne vit plus que dans le cimetière du cinéma qu'il aimait tant et qui était sa vie. Et tandis que le fantôme d'Alain Delon recevra sa palme, Alain Delon, sur la croisette, s'éloignera en regardant la mer. Il pensera à ses amis disparus, à ses amours mortes. Une vieille larme de vieil acteur coulera sur sa vieille joue ridée. Il pensera à Romy, il pensera à Mireille, il pensera à Visconti, à René Clément, à Jean-Pierre Melville et à Joseph Lozé. Alain Delon, impeccable, affrontant l'océan, portera beau la mélancolie des disparus. On peut rire, on peut se moquer, on peut se dire aussi avec Gabin
« C'est chouette les acteurs, c'est battre les acteurs. »«
C'est chouette les acteurs, c'est battre les acteurs. » On dit qu'Alain Delon va recevoir la palme d'honneur du Festival de Cannes. Félicitations, monsieur. Passe le temps, restent les films, et quoi qu'en dise Simone, la nostalgie est toujours ce qu'elle était.
Tout au long de ces 9 épisodes, 9 grands témoins ont bien voulu nous faire partager les regards qu'ils portent sur Delon, sa carrière et sa personnalité. À chacun d'entre eux, nous avons demandé in fine de nous donner 3 mots pour définir Delon. Mission impossible pour éclairer le mystère Delon, mais c'est aussi peut-être une façon d'aller à l'essentiel.
Crime,
On commence par les trois mots de la journaliste Muriel Joudet.
Silence. Et bleu.
Ah, je suis obligé de demander pourquoi. Pour les yeux.
Ouais. Et parce que l'eau a aussi beaucoup d'importance. Il y a le motif de l'eau qui est très important dans Nouvelle Vague de Godard, dans Plein Soleil. Il y a beaucoup de films. Je me souviens que j'avais fait plein de captures d'écran sur les occurrences de Delon qui plonge dans l'eau.
La piscine.
Et en même temps, bleu, c'est aussi la mélancolie. Il y a quelque chose d'un peu douloureux. Et surtout, évidemment, c'est d'abord le regard.
Alors, trois mots pour définir Alain Delon ?
Alors, artiste.
Nicolas Parisère, cinéaste.
Je pense que Delon est plus qu'un interprète. Donc, je dirais artiste. Ensuite, le deuxième mot, c'est cinéma, parce que il n'y a que dans le cinéma qu'il pouvait s'exprimer. Je pense que les films avec Alain Delon ou d'Alain Delon, enfin, il y a quelque chose d'absolument cinématographique. Et le cinéma, c'est Delon. Enfin, il y a quelque chose vraiment de cet ordre-là. Et, évidemment, le troisième mot, c'est l'absence, puisque c'est quelqu'un qui, le tour de force de l'œuvre d'Alain Delon, c'est d'avoir parler de l'absence en étant quelqu'un qui a une présence absolument extraordinaire. Voilà.
Jean-Marc Parisi, écrivain.
Le mot solitude. Solitude parce que une solitude choisie, mais également une solitude imposée pour fuir toutes les conneries qu'on a racontées sur lui. Excusez-moi du mot, mais c'est un mot qu'il aurait employé.
Oui.
Voilà. Après, je dirais secret, parce que je crois que, alors personne ne dit tout, mais je pense qu'il n'a pas tout dit sur l'affaire Markovitch. Je pense qu'il savait des choses. Je pense qu'il n'a pas tout dit, pas seulement sur l'affaire Markovitch, je crois qu'il n'a pas tout dit sur l'intense amour qu'il vouait à certaines femmes. Liberté, parce que, encore une fois, pour échapper d'une certaine façon à sa prison mentale. Je crois qu'aussi tout ce qui relève de la, parfois un peu de la dureté qu'il avait dans les rapports, de la maladresse, ça tient aussi à ça. C'est qu'il était, il avait des geôles dans sa tête, il avait des prisons dans sa tête et il a toujours voulu s'en échapper. Moi, ce qui m'émeut le plus, c'est son rapport au graphisme, par exemple. C'est sa collection de tableaux. C'est son amour pour le dessin également. Bon, voilà. Et puis la liberté, parce que il s'est arrangé pour ne jamais dépendre du cinéma, et ça c'est très très fort. Sous-entendu, on va reprendre sa fin. C'est en fait, je vous emmerde. Je fais ce que je veux. Je tourne ce que je veux. J'ai les amis que je veux et j'ai pas de compte à vous rendre. Voilà.
Bernard Stora, cinéaste.
Le premier mot qui vient à l'esprit, je l'ai prononcé tout à l'heure, c'est beauté. Beauté, sa beauté stupéfiante, impressionnante, c'est rare. Et donc, ça, c'est la première chose à laquelle je pense. Le deuxième mot qui me vient à l'esprit, j'ai pas le bon mot, mais c'est magnétisme. Cette chose très spéciale qui fait... Vous savez, c'était quand Delon, ça m'est arrivé plusieurs fois de m'en étonner, quand Delon rentrait quelque part, dans un lieu public, tout le monde s'arrêtait. Voilà. Et le dernier mot, ce serait malheur, frustration, malaise. Il diffusait quand même un certain sentiment de malaise. On n'avait pas du tout l'impression d'un homme qui est arrivé, voilà, qui a fait des choses formidables dans sa vie, qui en est content, qui en est fier, qui s'épanouit. Voilà. C'était le contraire d'un homme épanoui.
Trois mots pour définir Alain Delon.
Je dirais juste, en faisant écho au film Le Professeur...
Ouais. L'écrivain Olivier Mongin.
Un génial artiste de l'espace. C'est-à-dire, le problème aujourd'hui, c'est comment trouver son espace dans un monde dont on sait qu'il sera toujours hanté par la mort. Espace, mort. Et soleil, peut-être, voilà.
Ben voilà, on les a. Merci.
Alors, je dirais que le premier, c'est... beau.
Le philosophe Paul Audy.
Le deuxième, c'est insaisissable. Et le troisième, c'est solitaire.
Jean et la prune, trois mots pour définir Alain Delon. Jean-Olé Laprune, journaliste.
Seul, animal, charismatique.
Merci. Rituellement, à la fin de chaque entretien, trois mots pour définir Alain Delon.
La fidélité, le courage et...
Le philosophe Bernard-Henri Lévy.
Et l'intelligence, mais pas genre l'intelligence du cœur et des trucs comme ça, l'intelligence intelligente.
La philosophe de l'art, Clélia Zernik.
Trois mots pour définir Alain Delon.
Il y a quelque chose de très direct, d'évidence directe, une sorte de frontalité, une plasticité et un mystère. Ouais.
Cette série s'intitule « Delon par Delon ». C'est donc lui qui en aura le dernier mot avec cette formule qu'il a précisément choisie pour dire adieu au monde.
Si vous aviez à faire graver votre épitaphe,
qu'est-ce que vous aimeriez qu'on y laisse comme trace ?
Oh, c'est très simple, alors là je t'apprends en Musset. C'est tout simple, c'est ceci. J'ai souffert souvent, je me suis trompé quelques fois, mais j'ai aimé. C'est moi qui ai vécu et pas cet être factice créé par mon orgueil et pas un être factice créé par mon orgueil et mon ennui. Voilà. J'ai souffert souvent, je me suis trompé quelques fois, c'est moi qui ai vécu et non pas un être factice créé par mon orgueil et mon ennui.
Voulez que je vous la joue ?
Oui.
D'accord.
Partez.
Delon par Delon est un podcast original de France Inter proposé par Laurent Delmas. Et mis en onde par la guépard Audrey Ripouille, avec l'aide de la samouraï Karen Day, de la tulipe noire Laura Dumez, de la professeure Emmanuelle Fournier, de la gitane Emma Bouvier et du clan des Siciliens au mixage Basile Bocquer et Baptiste Collion. Avec eux, avec nous.
Avec moi.